Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 26 octobre 1990.
Avant de continuer, je vous pose cette question. Pourriez-vous préciser au plan critique ce que représente l'idée? Vous avez parlé de l'idée d'être. On est en présence aujourd'hui, après Heidegger, de cette attitude qu'il a prise, cette critique qu'il a faite par rapport à ce qu'il appelle la métaphysique classique, traditionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idée d'être. Et que toute métaphysique qui commence par l'idée nous empêche d'atteindre une véritable ontologie fondamentale, qui est penser l'être. Comme c'est le dernier grand philosophe qui a le courage de remettre en lumière le problème de l'être, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui repenser le problème de la philosophie première sans regarder ce que dit Heidegger. N'oublions pas qu'Heidegger était disciple de Husserl, donc de la méthode philologique. Il l'a quitté. Il y a quelque chose de parallèle avec Merleau-Ponty. Le premier Merleau-Ponty est dans la philologie de la perception, et le dernier Merleau-Ponty qui est mort avant de pouvoir s'exprimer pleinement dit qu'il faut revenir à l'être sauvage. J'aurais aimé savoir ce que Merleau-Ponty pensait de l'être sauvage. Je crois pouvoir le préciser. Pour lui, l'être sauvage, c'est l'être, c'est-à-dire ce qui est, qui se donne à nous immédiatement, sans passer par l'aspect de l'idée d'être. L'idée d'être habille l'être. Elle lui donne quelque chose de conventionnel. Et donc, c'est plus l'être sauvage. L'être, l'homme, prenez la comparaison. L'homme sauvage, il est dans sa nudité. L'être, l'homme civilisé, il a sa redingote. Qui varie du reste. Hein, parce que quelquefois, c'est tout simplement un bleu. Ou un gris. C'est l'être civilisé. Il est habillé. Et l'habillement, féminologie, c'est l'idée. L'idée qu'on a d'une chose. On a une idée d'une chose. Et dès qu'on a une idée d'une chose, on voit tout à travers ça. Vous allez acheter une table, vous avez l'idée d'une table. Dans vos mondes, des tas de tables différentes, ça ne correspond pas à mon idée. Parce que vous n'avez pas une autre chose. Et ainsi de suite. Mais on a des idées. Et les idées sont des a priori. Et la philologie essaie de retrouver l'idée première. C'est toute la méthode philologique, ça. On met entre parenthèses le jugement d'existence pour chercher l'idée fondamentale. L'idée première. L'idée de la table. Et on fait de l'archéologie. Ou on fait, si vous voulez, une méthode psychologique qui essaie de prendre la première fois que vous avez l'idée d'une table. Ou l'idée table qui demeure plus que toutes les autres. L'idée archétype. Jaspers. Les archétypes. Il y a tout ça qui est dans le fond de toute cette recherche. Alors, je dis, tu vois, nous essaierons de comprendre que Heidegger a parfaitement raison de dire qu'une philosophie physique première, une métaphysique ne peut pas commencer par l'idée de l'être. Mais, je dis, Heidegger, en disant ça, ne critique pas la métaphysique d'Aristote, la philosophie première d'Aristote, ni celle de saint Thomas. C'est celle de Suarez. C'est celle qu'on lui a enseignée. Parce qu'il connaît la scolastique décadente. Alors là, il a raison, je suis tout à fait d'accord, qu'on ne peut pas commencer une métaphysique par l'idée d'être. Mais ce n'est pas la métaphysique de saint Thomas, ni celle d'Aristote. Première remarque. Deuxième remarque. À partir de là, prétendre qu'il n'y a pas d'idée d'être, on verra. Mais une idée d'être qui n'est jamais première. Comme l'idée que j'ai de la maison. L'idée de la maison, c'est pas quelque chose de premier. Ce qui m'intéresse, c'est la maison. À moins d'être comme le père Garrigou-Lagrange. Je t'ai donné cet exemple déjà, n'est-ce pas? On était en train de construire le saulchoir d'étiole. Alors on avait montré les plans au père Garrigou-Lagrange. Il a vu les plans. Quand on voit les plans, on se fait une idée. Et quand le saulchoir a été construit, il dit, on va vous y conduire. Oh, c'est pas la peine. J'ai vu l'idée. J'ai vu les plans. Donc, j'en ai l'idée. C'est suffisant. Oui, ça c'est terrible. C'est un manque de réalisme. Autre chose est l'idée qu'on a de la maison. Autre chose, la maison réalisée. Personne d'entre nous, j'espère, dirait ça. Mon père Garrigou-Lagrange dans le ciel est tout à fait d'accord avec moi. J'en suis sûr maintenant. Il comprend toute la différence qu'il y a de l'idée qu'on se fait d'une chose et la réalité. Et vous voyez, ça, c'est le réalisme de la scolastique décadente. L'idée restée première. C'est du Suarez. C'est pas du saint Thomas. C'est pas de l'Aristote. Donc là, on est tout à fait d'accord avec Heidegger. On n'est pas entièrement d'accord avec Heidegger. D'abord, c'est que sa critique qu'il fait, regarde, telle métaphysique, pas la métaphysique. Deuxièmement, progressivement, nous nous formons au plus intime de nous-mêmes un certain concept d'être, je ne dirais pas une idée, un concept d'être, puisque nous parlons de l'être, je suis, il est, dans le langage, le mot être existe, il faut donc qu'on ait un certain concept de l'être, mais un concept analogique, qui est le concept fondamental qu'on découvre au terme de toute la critique. Et ce concept est toujours en dépendance du jugement d'existence. Le jugement d'existence est premier. Et le concept d'être est relatif au jugement d'existence. Alors là, on peut accepter un concept d'être. Ce que Heidegger n'a pas vu. Parce qu'il n'a pas fait la distinction avec suffisamment de précision entre l'appréhension et le jugement. Ça, c'est une critique très fondamentale à Heidegger. On reverra ça. Alors, l'idée, qu'est-ce que c'est? L'idée, j'ai des cartes. L'idée, c'est ce qui est premier, ce qu'elle est innée. Et donc, elle devient cause exemplaire et mesure de tout ce que je connais. Et c'est pour ça que je dis que c'est un a priori. Évidemment, quand vous avez l'idée de la table, elle n'est pas innée, cette idée. Vous l'avez acquise. Alors, dites plutôt le concept de la table. Il faut distinguer concept et idée. En latin, on dit l'idea. et cause exemplaire. Quelle mesure. Alors, c'est au niveau artistique. Un artiste, il a l'idée de ce qu'il va faire. Cette idée n'est pas innée. Hein. Elle provient de l'inspiration et elle provient des expériences qu'on a. Puis le concept. Pour saint Thomas, idée et concept sont distinctes. Le concept, c'est le, pour saint Thomas, c'est le verbe intérieur. C'est le verbe mentis, verbum mentis, le verbe de l'esprit. Alors, concept et verbe sont deux expressions pour saint Thomas qui expriment que lorsque nous pensons, lorsque nous appréhendons, lorsque nous appréhendons telle réalité, nous concevons au plus intime de nous une forme intentionnelle de cette réalité. Donc, concept et verbe sont une forme intentionnelle qui n'est pas du tout mesure et cause exemplaire, qui exprime ce que nous pensons, ce que nous avons assimilé. Voilà ce qu'il faut dire. Ce que nous avons assimilé de telle réalité. La forme intentionnelle qui exprime ce que nous avons assimilé. Je dis chat. J'ai un concept de chat qui exprime tous les petits chats. Puis vous résumez, chat. Quand vous dites animal, vous avez conçu animal, je ne sais pas à quel moment. Mais plus vous en voyez, plus votre concept d'animal s'enrichit. C'est pour ça que c'est bon de conduire les enfants au zoo. Parce que leur concept animal s'enrichit. Je vois que il y a des zèbres, il y a des girafes. Tellement drôle, une girafe. Ça vous regarde de très haut. C'est ça, une girafe. Tandis qu'en voyant une petite bête du bon Dieu, elle vous regarde de très bas. Et ainsi de suite. Puis alors, quand vous les voyez en Afrique, c'est encore beaucoup mieux. Parce que les voyez à l'état de nature. Dans les zoos, ils sont toujours un peu habillés. Vous voyez, ils sont un peu dressé. Un éléphant dans un zoo, c'est effrayant. Tandis qu'en voyant un éléphant dans la réalité, c'est mieux. Alors je comprends ce que Merleau-Ponty dit, l'être sauvage. C'est pas tout à fait la même chose. Tandis que dans un zoo, ils sont canalisés. Vous avez le petit réduit éléphant. Et on voit ces pauvres éléphants avec un poids énorme à leurs pattes pour qu'ils ne courent pas. Ils sont esclaves. Esclaves du zoo. On a envie d'aller couper ça et puis de les laisser en pleine liberté. Être libérateur de l'esclavage des éléphants. C'est vrai, on a envie de leur donner leur liberté. Alors, chaque fois que vous voyez un animal que vous n'avez pas encore vu, votre concept, si vous pensez un tout petit peu à cet animal, si vous le regardez, si vous l'étudiez un peu, votre concept animal s'enrichit. C'est pas statique. Je ne cesse de croître dans mon intelligence. Oui, tandis que l'idée, c'est quelque chose d'un peu statique. Pas chez l'artiste. La classification. Il y a des gens qui classifient tout de suite. Alors c'est statique. Alors que le vrai concept s'enrichit de toutes mes expériences. Par l'expérience, je touche tellement. telle réalité, cette réalité, j'en ai une image. L'image représente et le concept exprime et signifie. Ça, il faut bien comprendre ça au niveau critique. L'image représente et le concept signifie, exprime. Animal, vous ne pouvez pas représenter animal. C'est-à-dire, vous représentez tel petit chat et vous en faites une petite caricature. Hein? Vous voyez tout de suite que c'est un chat, de petites oreilles, une moustache. C'est bon, vous savez que c'est un chat. Vous le représentez. Tandis que vous ne pouvez pas représenter la signification d'animal. Cherchez. Impossible. Et même la signification d'homme, vous ne pouvez pas la représenter. Et ça signifie quelque chose. Alors là, vous voyez toute la différence entre l'image, qui est le fruit de mon imagination, et la forme intentionnelle, qui est le premier fruit de mon intelligence, qui pense. Quand je cogite, quand je pense, je forme au-dedans de moi-même ce concept qui exprime quelque chose. Et ce concept, c'est cette forme intentionnelle, toute relative à la réalité que j'ai expérimentée. Toute relative, donc toute dépendante de cette réalité. Tandis que l'idée est mesure. Elle est donc première par rapport à la réalité que je fais. Mais c'est juste l'ordre inverse. Par rapport à la réalité. Le concept reste tout entier relatif à la réalité expérimentée, à la réalité connue, tandis qu'au contraire, l'idée est mesure de la réalité que je vais réaliser. C'est pour ça que je ne peux pas avoir d'idée d'être, parce que je n'ai jamais fait l'être. L'artiste, il fait de nouvelles relations, des formes nouvelles, mais il ne fait pas l'être. Le seul qui fait l'être, c'est le Créateur. On verra ça. Le seul. Donc l'idée d'être, c'est affolant. Le concept d'être, oui, mais pas l'idée d'être. Je n'ai pas d'idée d'être. Pour avoir une idée d'être, il faudrait mesurer l'être. Et vous ne mesurez pas l'être. Vous êtes toujours dépendant de ce qui est. Et toutes les réalités que vous voyez, vous êtes relatives à cela. C'est le jugement d'existence qui me montre cela. Qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence, alors? Nous l'avons vu la dernière fois. Alors maintenant, j'essaie de comprendre la naissance de la philosophie première. Et je dis que la philosophie première ne peut pas naître par l'idée d'être. Là, je suis tout à fait d'accord avec Heidegger. C'est bien d'être d'accord avec lui, parce qu'on l'aime bien, Heidegger, normalement, aujourd'hui. J'ai dit que la philosophie première commence avec le jugement d'existence. Ceci est. Et cet autre jugement d'existence, je suis. Je crois qu'aujourd'hui, il faut bien montrer ces deux commencements. Ceci est la méta-expérience, en prenant expérience au sens le plus fort, avec les sens externes. Je touche cette table et je dis cette table existe. Si vous vous dites ah non, 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 c'est une image, pas du tout, elle n'existe pas, je dis venez la toucher. Quand vous voyez une fleur artificielle de loin, vous pouvez vous tromper. Il y en a qu'on imite tellement bien. Vous vous approchez, si vous avez un odorat très très distinct, vous sentez tout de suite, c'est une odeur artificielle ou une odeur réelle. On essaie d'imiter. Hein. À grâce ou des parfums de rose, tout Tout est artificiel maintenant. C'est pour ça que ça sent si mauvais. Tandis que c'est des parfums de roses, non, c'est merveilleux. De roses réelles. C'est très curieux. Il y a une espèce de... Alors, c'est ça, le jugement d'existence. Ceci est. Autrement, vous dire, c'est artificiel. Votre jugement d'existence, quand c'est artificiel, il se termine à quoi? Il se termine à la qualité, à la relation qu'on a faite, pas à l'être. Votre jugement d'existence, il se termine à l'être. Cette table existe. C'est du vrai bois, ça. C'est pas du contreplaqué. Du moins, je crois. Je demande à un spécialiste, hein, c'est bien du bois, ça. Notre frère Joseph dirait tout de suite. Tout de suite. C'est comme les gens qui sont habitués à distinguer la réalité. Le jugement d'existence se termine à la réalité existante. Puis un autre jugement d'existence, je suis. Que Descartes a découvert. Mais bien avant Descartes, pour celui qui est attentif aux traditions religieuses, c'est dans la Bible. Je suis. C'est impressionnant. Alors, la méta-expérience des sens externes, ceci est. La méta-expérience de mon expérience interne, je suis. C'est important aujourd'hui de bien classer ces deux en face de Husserl et en face de Heidegger. Il y a ce double dépassement. Je suis, ceci est. Mais il y a un ordre entre les deux. Lequel est véritablement le commencement de la philosophie première de la métaphysique? Puis-je commencer la métaphysique par le « je suis » seul? Puis-je commencer la métaphysique par le « ceci est seul » C'est ça qui est intéressant à se poser comme question. Et c'est important, parce que s'il y en a deux, vous comprenez, mon cœur balance entre les deux. Ce sera un petit peu comme l'acte de Buridan. Je dirais, ah, ceci est savant. Non, je suis. Et c'est vrai que c'est très différent comme jugement d'existence. C'est très, très différent. Alors, regardons les deux. Ceci est. Je peux mettre l'accent sur ceci. Je peux mettre l'accent sur est. J'ai le droit de faire ça, hein. Parce que ceci est complexe. Il implique un sujet et un attribut, grammaticalement. Le langage est toujours un signe. Je dois dépasser le langage pour faire la philosophie, mais c'est un signe. C'est complexe, ceci est. C'est un jugement. Tout jugement est complexe. C'est le jugement le plus simple. Il n'y a pas de jugement plus simple que ceci est. C'est du respo, ça. C'est le jugement le plus simple. Mais c'est quand même composé. Ceci est, ceci n'est pas. Affirmation, négation, dans ce qui est le plus simple. Et je peux comprendre que grammaticalement, est, c'est un verbe. Et le verbe n'est jamais sujet. Sauf à l'infinitif. Autrement, il est relatif à un sujet. Et le sujet, c'est ceci. Donc, grammaticalement, je ne découvrirai jamais l'être. C'est très intéressant de voir ça. Une philosophie du langage va nécessairement, au bout d'un certain temps, oubliez l'être. C'est ce qui arrive du reste. Puisque dans une philosophie du langage, le verbe être est second, est attribut. Et qu'il est attribué, je ne peux pas regarder l'être pour lui-même. Je le regarde toujours en fonction de ceci. Ceci, c'est n'importe quoi. C'est la vache, c'est le singe, c'est le chat. Vous savez bien, la fameuse intuition de l'être de Raïssa. Vous la rappelez ici, pour faire mémoire. La fameuse intuition de Raïssa. C'est que Raïssa, un jour, a regardé le chat. Et dit, ce chat existe. Puis Raïssa s'est regardée, dit, moi, j'existe. L'exister du chat et l'exister de moi sont quand même très différents. Et pourtant, lui et moi, nous existons. Pour tous avoir cette intuition-là. Hein. Vous voyez que cette intuition porte sur quoi ? C'est pour ça que c'est faux de dire intuition de l'être. Ça porte sur quoi ? Ça porte tout simplement sur la relation de exister vers chat et exister vers moi. Tout simplement. En voyant que cette relation est diverse et cependant elle a quelque chose de commun. C'est saisir l'analogie de l'exister. Exister, exister dans le chat, exister, exister en moi. Mais de deux façons différentes. Alors je veux bien qu'il y ait une certaine intuition de cela. J'accepte. Mais ne disons pas intuition de l'être. Disons intuition de la relation de exister, d'être, à toutes les réalités qui existent. Parce que je peux le multiplier. Hein. Je peux mettre la table. Je peux mettre le pain. Je peux mettre le vin. Tout ça existe. Puis la réalité, la pierre. Donc, c'est n'importe quoi, ce. Donc, exister est relatif à ceci. C'est vrai. Mais je peux aussi. Et alors là, l'être, ce que Raïssa dit, est intéressant. C'était du reste découvert bien avant. Aristote l'avait découvert, ça. Aristote appelait ça le to einai anthropo, l'être à l'homme. L'être au chat, l'être à la table. Alors il y avait cette expression très belle, le to einai anthropo, l'être à l'homme. Oui, l'exister au chat, l'exister à moi. C'est une manière d'exprimer le jugement d'existence. J'existe, le chat existe, l'exister au chat existe. Ça met en relief, donc, ce fait que exister est relatif à chat, exister est relatif à moi. C'est très vrai, mais il y a quelque chose de commun. Il y a toujours existé. Je peux donc, par cette intuition de cette relation diverse et qu'il y a quelque chose de commun, vouloir mettre en relief ce qu'il y a quelque chose de commun. Le quelque chose de commun, c'est être. Donc, dire ceci est. Et c'est l'être qui m'intéresse. Le chat existe, c'est exister qui m'intéresse. Moi, j'existe, c'est exister qui m'intéresse. Je mets entre parenthèses le ceci. Vous voyez, je fais juste l'inverse de Husserl. Husserl dit, je mets entre parenthèses le jugement d'existence pour ne regarder que l'idée. Il ne faut pas oublier que Husserl est un matheux avant d'être un philosophe. Il a fait une thèse en mathématiques. Je n'ai pas lu, mais que notre cher ami Jacques Vautier a lu. Il me dit, quand on lit sa thèse de mathématiques, on comprend toute sa philosophie. C'est une méta-mathématique. C'est très intéressant pour entrer dans le point de vue de la phénoménologie. C'est une méta-mathématique. Il met entre parenthèses le jugement d'existence, ce que fait tout bon matheux, pour ne regarder que la relation, pour ne regarder que les idées. fais juste l'inverse. Je mets entre parenthèses le ceci pour mettre en pleine lumière être. Donc, quand je regarde ceci est, il y a deux manières de le regarder. Ou le ceci est regardé comme sujet auquel être est relatif. Ou au contraire, au-delà du langage, dans ma propre pensée, je mets ceci relatif à est. Et je dis, ce qui m'intéresse, c'est l'exister du chat. Ce qui m'intéresse, c'est l'exister de moi. Ça, j'espère que vous le voyez bien. C'est capital, hein. Aristote dit que toute confusion au point de départ a d'immenses conséquences. Toute déviation au point de départ a d'immenses conséquences. Si le point de départ de la philosophie première, c'est le jugement d'existence, ceci est la non-considération de cette double considération. Et relative à ceci, ceci relative à est, a d'immenses conséquences. Mais quand vous regardez les sources du Rhône et du Rhin, en Suisse, elles sont toutes proches. Et quand vous regardez le Rhône et le Rhin, vous voyez que c'est tout à fait deux fleuves différents, avec deux spiritualités totalement différentes. C'est vrai, vous descendez le Rhône depuis le début jusqu'à Marseille. Cherchez Marseille au terme du Rhin. Vous ne le trouverez pas. Impossible. Vous trouverez autre chose. Et alors là, on est au point de départ de la pensée métaphysique. Dans le jugement des gens, ceci est. Or, le ceci ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'est pas original. Dans le jugement d'existence. Ce qui est original dans le jugement d'existence, c'est l'être à l'homme, c'est l'être au chat, c'est l'être à tout. C'est ça qui m'intéresse. Aristote avait très bien compris. Mais il n'a pas mis en lumière. C'est pour ça qu'on l'a mal compris après. Ceci, je suis. Moi, j'existe. Est-ce que c'est la même chose de dire ça ? Je suis ou moi ? J'existe. Dans le moi, j'existe, je mets en lumière le ceci qui est impliqué dans le jeu. Je suis. Donc, je ramène le je suis à ceci est. Ça, c'est vrai. Je peux très bien ramener « je suis, moi, j'existe, associé. Moi, je suis un ceci. » Pierre, Jacques et Jean, c'est un ceci. C'est n'importe qui d'autre. Cependant, notons bien que dans l'affirmation « je suis », comme jugement d'existence, il y a quelque chose de particulier. Parce que quand je dis « je suis », j'ai une expérience interne de l'exister. Différente au jugement d'existence, ceci est. Quand vous dites ceci est, ou moi j'existe, vous regardez la connaissance qui se termine à quelque chose qui est au-delà de la connaissance. Qui est le point de départ, ceci est. Tandis que quand vous dites « je suis » et que vous le dites sérieusement, vous avez l'intériorité de l'exister. Et c'est quelque chose de très particulier. L'exister ne m'est pas toujours extérieur. L'exister peut être intérieur. je suis. Et c'est ce qui est tout à fait propre à ce jugement, je suis. Quand vous dites je suis, vous dites tout de suite je suis, mais je ne suis pas mon voisin. Quand vous lui donnez un coup de coude, hein, vous le touchez, je suis, c'est moi. Et moi seul. Tandis que ceci est, oh, c'est la vache, c'est le chat, c'est Iraï, ça. Ça n'a pas d'importance. Allez, c'est tout ça. C'est le temps, le ceci à tout ça. Tandis que quand Raïssa dit je suis, elle est unique. Et quand je dis je suis unique. Ah, ça c'est très important de voir ça. Il y a donc deux regards sur le jugement d'existence. Un qui aboutit à quelque chose d'extérieur, l'autre qui aboutit à quelque chose d'intérieur. Alors, si c'est vrai ça, mais je devrais commencer par je suis, puisque c'est une connaissance bien plus intérieure. C'est beaucoup plus intéressant de saisir l'être d'une façon intérieure que de le saisir d'une façon extérieure. On est tous d'accord avec ça. On a tous un tout petit peu quand même cette conviction qu'on est le seul être intéressant au monde. C'est vrai, après moi le déluge. C'est ça, il y a le seul être important que c'est, moi, enfin, c'est la, une métaphysique de l'intériorité, c'est bien plus intéressant. Alors pourquoi pas commencer par je suis, hein? Vous voyez, ça c'est la grande tentation moderne depuis Descartes. Y a-t-il une métaphysique de l'intériorité et une métaphysique de l'extériorité? La métaphysique de l'intériorité, c'est la métaphysique personnaliste. La métaphysique de l'extériorité, c'est la métaphysique du caillou, de la pierre. C'est la grosse métaphysique. Le rouleau compresseur, tout est être. Alors, si je suis attentif à Sartre, j'ai l'en-soi le pour soi. Ah, voilà qui m'éclaire. Sartre parle du manche à balai, l'en soi et le pour soi. Oui, ça correspond à ça. L'en soi et le pour soi. Or, pour Sartre, c'est bien évident, l'en soi n'a aucun intérêt. C'est le pour soi qui est la conscience de soi qui est intéressant. Là, on touche l'être. Tandis que l'en soi, le moi, je balai. C'est l'être qui s'impose à moi. C'est l'être brutal, c'est l'être. Des cailloux. Les cailloux existent. Mais je marche dessus. C'est l'en soi. Tandis que pour soi, ah, je ne marche jamais dessus. C'est lui qui s'impose à moi. C'est lui qui est en moi. Alors, suivons Sartre et faisons une métaphysique à la Sartre. La métaphysique du pour-soi, ce sera la métaphysique qui dépendra de Descartes et non plus d'Aristote. Mais ça, il faut bien comprendre ça, parce qu'il faut, il y a un choix, il y a une option. Et il faut faire cette option, non pas à l'aveugle, mais une option vraie. L'argument de dire Aristote est plus intelligent que Descartes, donc je suis Aristote. Oui, mais Aristote est vieux, Descartes est jeune. Tu vois? Je crois que Descartes a vieilli plus qu'Aristote. Mais ça, ça fait rien, ça, c'est un jugement promené. Je crois que Descartes est beaucoup plus vieux qu'Aristote. Parce que depuis Descartes, on a vieilli très vite. Ah, pourquoi je ne vais pas commencer ma métaphysique par le je suis, hein? Vous allez réfléchir. Pourquoi je ne commence pas ma métaphysique par le je suis? C'est tellement plus agréable. Alors je serai, ce sera l'avantage, c'est que je serai tout proche de Sartre. C'est quand même un avantage d'être avec Sartre dans le monde d'aujourd'hui.